soir, dans son discours sur l'état de la nation samedi dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président Joseph Kabila a notamment déclaré que désormais la priorité sera la défense de la patrie. Il a aussi appelé à l'unité et à la cohésion nationale. Quelle analyse faire du discours du chef de l'État ? Pour en parler, nous recevons l'honorable José Makila, député national de l'opposition et président du parti politique Alliance des Travaillistes pour le Développement ATD. Honorable Makila, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Sébastien Luzanga Chamandevou, acteur politique, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Luzanga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste local.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la Société Civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir.
Bonsoir.
Merci chers auditeurs pour vos réactions ainsi que vous chers internautes. Jean-François Ngando de Mbandaka à l'Équateur, l'unité et la cohésion dont parle le chef de l'État sont des bonnes choses, mais pour qu'elles soient effectives, elles doivent ipso facto être précédées d'un dialogue franc qui aboutira à une réconciliation sincère, gage d'une paix durable en RDC. Freddy Zokenge de Kananga au Kassai Occidental, en réalité, le discours du président de la République mérite considération, car sans unité, tous les efforts sont vains. Je souhaite que le pouvoir fasse preuve de véritable volonté et que l'opposition évite un radicalisme idéologique, c'est-à-dire que tous fassent preuve d'éloquence patriotique. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le président de la République s'est exprimé samedi dernier devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a déclaré que désormais, la priorité sera la défense de la patrie en mettant en place une armée républicaine forte et dissuasive. On écoute le président de la République dans cet extrait sélectionné sur la télévision nationale.
Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques. Mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater que l'attitude et les agissements de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. À cet effet, toutes les lois concernant la réforme des forces armées ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées.
Voilà, honorable José Makila, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Alliance des Travaillistes pour le Développement ATD. Avant que l'on aborde les deux aspects que nous avons sélectionnés ce soir dans le discours du président de la République, à savoir la défense comme priorité et la cohésion nationale, juste un mot d'abord sur le discours dans son ensemble.
Merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Je commencerai d'abord par présenter mes vœux les meilleurs à tous les auditeurs de la Radio Capi, à tous les Congolais, là où ils se trouvent. Espérons que l'année 2013 nous apportera le bonheur dans notre Congo. Pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, je découpe l'intervention du chef de l'État en trois volets. Il y a eu le volet économique et social, le volet sécuritaire, militaire, ainsi que la situation préoccupante à l'est de notre pays et la cohésion nationale. Ben, si vous voulez bien, rapidement, je vais faire un aperçu général sur le volet économique. Le chef de l'État a parlé de taux de croissance de 7,5%, de stabilisation des cadres macroéconomiques, de taux d'inflation stabilisé et jamais connu depuis plusieurs années, la situation des francs congolais face au dollar américain et l'excédent budgétaire. En conclusion, le chef de l'État a présenté comme si le gouvernement avait réussi. Mais il y a un bémol. Lequel? Tout ceci, le chef de l'État dit que le peuple congolais ne se retrouve pas parce que le panier des ménagères n'a pas changé. Le baromètre de la politique économique du gouvernement s'exprime par le taux mensuel d'emploi soit perdu, soit créé. Mais chez nous, vous savez, monsieur le journaliste, que nous avons un taux de 94% de chômage, ce qui est très grave. Revenons au volet sécuritaire militaire, comme vous voulez dire.
Alors, puisque vous en parlez, honorable Makila,
oui.
Juste avant de vous donner la parole sur cet aspect, il y a une réaction que nous avons reçue de l'honorable Kanizia, qui est député honoraire, qui fait l'observation suivante. La convocation de ce congrès est anticonstitutionnelle, car le congrès fonctionne comme chaque chambre parlementaire sur la base d'un règlement intérieur adopté par les deux chambres de même mandat. Or, dans la situation actuelle, il n'y a ni règlement du Congrès, ni la possibilité d'en initier un par les chambres parlementaires, car elles sont de mandats différents, comme on le sait, le Sénat de 2006 et l'Assemblée nationale de 2011. Votre réaction par rapport à cette observation?
Non, je ne suis pas d'accord avec cette observation, parce que le Sénat, il est dit, je crois, dans l'article 115 de la Constitution, le Sénat ne peut être invalidé que s'il y a un autre Sénat. Sinon, il continue son travail. Et mutandis. Il y a eu un règlement intérieur, les Sénats étant en place, l'Assemblée nationale est là, mais je pense que le règlement intérieur est en vigueur. Donc, le chef de l'État n'a fait que l'exercice normal selon la Constitution.
Et donc, c'est un faux débat.
Oui, c'est un faux débat.
Alors, le président de la République a déclaré, je cite, « Désormais, au-delà de toutes nos actions pour les développements, notre priorité sera la défense de la patrie, la défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, la politique et professionnelle, bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier et qu'il soutiendra en tout temps et en toutes circonstances, honorable Makila. Comment vous en analyser cet aspect?
Mais, monsieur le journaliste, on ne peut pas se limiter qu'à cet aspect-là. Le chef de l'État, au départ, nous a préconisé trois voies de sortie de crise. Il y avait la première voie, c'est elle est diplomatique, elle est politique et elle est militaire. Mais il me semble que le chef de l'État, dans son discours, s'est beaucoup glissé vers la voie militaire. Ma question, elle est celle-ci. Avons-nous suffisamment les moyens nécessaires pour faire la guerre? Avons-nous suffisamment les hommes et les effectifs qu'il faut? La troisième préoccupation est celle-ci. Même si les deux premières préoccupations sont rencontrées, et alors les services de sécurité, avons-nous des gens capables de nous servir des données stratégiques des adversaires? Parce qu'il nous a parlé de recrutement de 30 000 hommes. Mais à ma connaissance, un militaire ne peut être formé au minimum qu'au bout d'une année pour avoir une formation complète. Et l'armée a besoin d'une réforme profonde. Et qui dit réforme dit des lois. Moi, je dis tout simplement ceci. C'est bien bon. Parce que le chef de l'État nous a dit qu'il y a trois voies à suivre. Trois issues possibles. Diplomatique, politique et militaire. Dans son discours, parce que nous parlons de discours, il glisse plus vers la voie militaire. Moi, je pense que, avec toutes les questions que je viens de poser tout à l'heure, mon interlocuteur que je connais bien, Monsieur
Lusanga
Chamandefou pourra éclairer l'opinion publique là-dessus. Avons-nous des hommes qu'il faut? Avons-nous les moyens nécessaires? Avons-nous le service de sécurité pour pouvoir éclairer nos militaires sur le terrain? Tout ça. Et surtout que l'ennemi est connu, l'agresseur est connu, parce que le chef de l'État vient de le citer nommément, le Rwanda. Y a-t-il pas un autre moyen possible pour pouvoir accéder à une négociation quelconque ou soit à une solution diplomatique? Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies est là. Les organisations internationales pour réprimer l'agresseur sont là. Pourquoi ne pas utiliser les deux formules précitées, notamment la voie diplomatique et la voie politique.
Et donc, pour vous, la défense comme priorité, honorable José Makila, c'est un vœu pieux.
La défense comme priorité, la défense comme priorité est une bonne chose, parce que c'est un des objectifs de Sand City. Il faut avoir une armée républicaine. Mais une armée, on l'a pas en une journée, ni en un mois. Et on n'a pas une armée pour combattre les frères congolais. Si on sait que le M23 sont des frères congolais qui sont mécontents et qui se manifestent par des armes. Mais l'accord de Sand City, le préalable, c'est quoi? C'est avoir une armée républicaine. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une armée républicaine, c'est ce qu'on veut nous dire.
Voilà. Monsieur Sébastien Louzanga Chamandé, vous êtes acteur politique, porte-parole de la majorité présidentielle. À vous également, juste un mot par rapport à votre aperçu sur le discours du chef de l'État dans son ensemble, avant d'aborder les aspects que nous avons précisés.
Bonsoir au Capi, la radio qui informe toute la population congolaise par sa performance et proficiate. Je voudrais moi aussi m'acquitter dans devoir de citoyen de la République. J'ai une pensée au moment où vous m'interrogez. J'ai une pensée pour la population congolaise et particulièrement pour nos compatriotes, pour nos papas, nos mamans, nos enfants de l'Est qui, certainement, à la veille de Noël et de Nouvel An, vont être encore dans des conditions qui ne sont pas des conditions souhaitables. J'ai une pensée, cette émission, je voudrais la dédier d'abord à nos populations de l'Est, qui ne sont que victimes d'une agression venue de pays étrangers. Et je ne voudrais pas m'étaler là-dessus. C'est le président de la République a eu aussi aujourd'hui le devoir patriotique de désigner le pays qui nous agresse, qui est le Rwanda qui nous agresse, et de façon récurrente. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes victimes de cette agression-là de la part de notre voisin qui est le Rwanda.
Monsieur Louzanga?
Oui, je vous entends, oui.
Voilà, je vais prendre deux réactions pour vous, puisque nous abordons le premier aspect qui concerne où le président de la République a décrété la défense comme priorité. Il y a l'honorable Gustave Omba qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Je crois que l'appel du chef de l'État à l'unité autour de l'armée vient un peu tardivement, car il a passé plus de 10 ans au pouvoir sans s'être impliqué pour l'organisation et l'amélioration des conditions de vie des militaires qui ont un salaire modique, difficilement acquis, et impossible de répondre à leurs besoins primaires. » Il y a également Biaboula Jackson, cet internaute, qui dit « Les discours et les actes doivent se marier. Faire de la défense sécurité une priorité des priorités signifie au départ qu'elle avait été prise au second rang, ce qui est très grave car sous d'autres cieux où règne la paix et la sécurité, comme aux États-Unis, en France et ailleurs, la défense prend toujours une grande part dans le budget national. » Sébastien Louzanga.
Mais sur le journaliste de l'OCAPI, je voudrais vous dire que le chef de l'État, depuis toujours, depuis que ce problème existe, il a indiqué 3 pistes de solution. La voie diplomatique au lieu des armes, la voie politique et enfin la voie militaire. Et nous avons usé de toutes ces pistes-là. La diplomatie, vous avez vu que notre pays a été présent aux Nations Unies pour justement donner le point de vue, faire le plaidoyer de notre pays. Et on vous a suivi, on ne vous a pas suivi. Vous êtes journaliste, mais au moins, cette voie-là diplomatique a été largement utilisée. Et nous allons continuer également à l'utiliser. Il ne faut pas l'exclure. La voie politique, le chef de l'État l'a toujours dit, ce qui explique la présence de notre pays à Kampala pour rencontrer la rébellion M23. Les discussions sont en cours. Donc, toutes les voies ont été vraiment utilisées jusqu'à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas de moment. Nous avons tout tenté. Nous avons tout tenté pour que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue par tous nos partenaires, les partenaires nationaux, les partenaires étrangers. Nous avons été partout pour faire valoir le droit, les revendications d'un pays indépendant, d'un pays souverain, qui est la République démocratique du Congo, qui est attaqué, j'insiste, qui est attaqué par un autre pays, membre des Nations Unies. Et quand je dis qu'il est attaqué par un pays membre des Nations Unies, ce n'est pas la marche de présence que tu le dis, ce n'est pas nos engagements que tu le dis, ce sont les différents rapports des experts des Nations Unies qui ont indiqué, par exemple, que si la ville de Goma est tombée, c'est parce qu'il y avait au moins plus ou moins 1000 militaires rwandais avec la logistique de l'Ouganda, de l'armée rwandaise, qui ont pris la ville de Goma. Voilà pour la situation. Il faudra que nous comprenions que les Congolais le sachent, que nous sommes victimes d'une agression par nos voisins, et nos voisins qui ont une...
Monsieur Lusanga.
Qui a un objectif précis, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Un objectif précis, et le chef de l'État l'a dit, qui ne vise que la balkanisation de notre pays. C'est ça le problème.
Monsieur Lusanga.
C'est ça la vérité qu'il faut faire véhiculer à tout le monde.
Monsieur Lusanga.
Ce plan-là existe. Le plan existe.
Monsieur Lusanga.
L'Ituri qui va aller.
Monsieur
qui va
Lusanga.
À l'Ouganda, le Nord qui va au Rwanda. C'est ça le problème que
Monsieur
nous
Lusanga.
Avons.
Alors, Monsieur Sébastien Lusanga, permettez que nous puissions dialoguer, parce que si vous parlez indéfiniment, il sera difficile de vous poser certaines questions de précision. L'honorable José Makila vous a adressé une série de questions auxquelles vous devriez répondre, mais si on ne dialogue pas, ce serait un peu difficile d'apporter la lumière aux auditeurs qui nous suivent. Je vous redonne la parole tout à l'heure dans le prochain tour des tables. Maître Omar Kavota, vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Comment vous avez accueilli le discours du chef de l'État?
Oui, permettez, M. Yamé, que je puisse d'abord commencer par saluer honorable José Makila, dont d'abord je salue le courage dans la lutte au Parlement par rapport à la situation de l'Est, la situation de chez nous. Également, je dois saluer Lusanga Chamandevu qui exactement fait preuve d'une certaine compassion par rapport à la situation que nous traversons. Et également, je dois saluer les auditeurs de Radio Capi et vous-même, parce que cette radio, effectivement, particulièrement cette émission, c'est même la température par rapport à la situation du pays. C'est dont nous nous félicitons. Et sur le plan donc du discours, je dois revenir à la question, M. Alain, par rapport au discours des chefs de l'État. Sur le plan forme, je n'ai aucune objection, mais quant au fond, c'est surtout les aspects sécuritaires et sociaux qui nous ont plus intéressés au niveau de la société civile ici. Et il faudrait encore dire que la route paraît longue sur ce plan parce que, considérant le plan social, s'il faut les résumer par les aspects éducation, santé, emploi, infrastructure de base, et après la situation sécuritaire qui va de mal à pire ici, on s'est dit finalement que c'est très catastrophique. Et donc c'est avec très grand intérêt que nous avons suivi ce discours du chef de l'État. Il y a des choses importantes qui ont attiré notre attention, spécialement sur l'aspect de face de la patrie, unité et cohésion nationale. Nous pensons que effectivement cela a marqué notre attention, et à notre niveau, comme l'a dit un auditeur, nous avons estimé que en réalité les appels à la défense de la patrie, à l'unité, à la cohésion, logiquement devraient intervenir plutôt avant. Parce que, à notre niveau, nous considérons que ces messages, ces discours serait mieux indiqué d'ailleurs au début des à la période de l'investiture du chef de l'État, et aujourd'hui nous serions en étape de l'évaluation. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bon, nous nous réjouissons de voir que le président de la République ait reconnu que la patrie est en danger, que l'agression a atteint son paroxysme, qu'il est temps que la nation soit mobilisée, et nous pensons que ça, nous, la société civile, on avait déjà dit avant. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit de courte mémoire, parce que nous, on était en train de les dénoncer, même à travers les antennes de radio, puis à travers cette émission dialogue entre Congolais, que la nation était en danger, qu'il fallait prendre les précautions. Malheureusement, la plupart des officiels, des politiques, ne voulaient pas nous croire, et on est arrivé au pire, curieusement. Et dès lors que le chef de l'État les reconnaît, nous nous disons, il n'est pas encore tard, on doit alors passer aux grandes actions. Malheureusement pour nous, nous avons raté plusieurs occasions, bien que M. Lusanga indique qu'il y a eu des opportunités où nous avons dénoncé plus haut l'agression rwandaise et les autres, mais nous nous avons enregistré certains ratés. Vous savez que l'occasion au niveau de la tribune des Nations Unies, l'occasion de la francophonie, il y a ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait sur quoi on pouvait mobiliser la communauté mondiale, on n'a pas pu le faire.
Maître Kavota.
Nous nous disons il est temps alors qu'on prenne les...
Oui. Alors, Maître Kavota, le président de la République décrète la défense comme la priorité, mais l'honorable Makilat s'est tout à l'heure posé une série de questions, notamment, avons-nous les moyens nécessaires, la volonté politique et tout ce qui va avec. Est-ce que vous, de votre point de vue, serait-ce un vœu pieux, comme je le lui demandais tout à l'heure, que cette action posée par le président de la République en plaçant la sécurité comme priorité?
Oui, je pense que je rejoins effectivement l'honorable José Makila en disant que la volonté politique devait primer. Parce que vous savez que nous avions dénoncé étant des choses qui n'ont pas permis que cette action militaire, que cette défense de la patrie ne puisse pas avoir sa réussite. Nous l'avions dit, vous vous rappelez, qu'on était en train de dénoncer des infiltrations dans les hauts commandements de l'armée. Et vous avez vu que des décisions ont tardé à venir. Il fallait que nous soyons même humiliés par un rapport des experts des Nations Unies pour citer nommément certains responsables de l'armée pour qu'on prenne des sanctions. Nous pensons donc qu'il est temps que la volonté politique prime dans les chefs des décideurs de manière à ce que nous puissions effectivement y arriver parce que, comme l'a dit le chef de l'État, c'est une priorité, la défense de notre patrie. La patrie est réellement en danger et on ne doit pas se passer de considérer la défense de la patrie comme une priorité, entre autres priorités.
Alors, très brièvement, je vais vous demander une très brève réaction, Maître Kavota. Il y a Guillaume Le Brakbert qui nous écrit de Mahagui en province orientale qui dit « Je salue le discours du chef de l'État pour la défense de la patrie, mais je pense qu'il y a plusieurs Congolais qui, à leur tour, pensent que la défense de la patrie congolaise semblerait être la seule affaire des hommes au pouvoir. » Quelle est votre réaction?
Non, malheureusement, parce que tout est conditionné par la sécurité. Et effectivement, comme l'a dit l'auditeur, le problème de face à la patrie n'a pas été la priorité des hommes au pouvoir. Donc, il y a les gens qui en parlent, mais ça se limite aux discours et des actions concrètes qui sont attendues sur le terrain, ne sont pas visibles. Et donc, nous pensons qu'en dehors des discours présentement, la population congolaise attend des actions concrètes et cela effectivement passe par revisiter notre système de l'armée pour qu'on arrive à mener des actions de grande envergure de nature à dissuader l'ennemi et à finir avec cette agression qui est en train d'envahir de plus en plus notre nation.
Merci. Honorable José Makila, un autre extrait du discours du président de la République. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. À cet effet, toutes les lois concernant la réforme des forces armées ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées. Vous êtes député national, vous êtes l'autorité budgétaire.
peut-on douter de la provenance de ces moyens pour réaliser ce projet du président de la République?
Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous dire et aux auditeurs que je pousse totalement la thèse de maître Omar Kavota. Je vais vous dire une chose, sincèrement parlant. Le président de la République a fait 11 ans à la tête de ce pays. Peut-il nous faire le bilan du budget accordé à l'armée? Et pourquoi nous n'avons pas une armée républicaine jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est un des objectifs de Sand City. Peut-il aujourd'hui nous dresser un bilan par rapport à tout ce que l'État congolais a mis à la disposition de l'armée? Et pourquoi nous n'avons pas cette armée?
Et pendant les 1 plus 4, vous avez co-géré.
Exactement. Et je suis tout à fait d'accord. Deuxièmement, on nous tympanise ici en disant « Non, nous sommes sous embargo ». C'est faux et archi-faux. Il faut que les auditeurs de l'OCAPI le sachent aujourd'hui que le Congo, la République démocratique, n'a jamais été sous l'embargo des armes. Jamais. Jamais. Il faut qu'on le sache. Donc cette question, il faudra bien poser à M. Chamandevou, qui est mon grand frère.
Alors d'où viendront les moyens?
Les moyens sont là. Le chef de l'État a dit qu'on fera de notre force armée la priorité des priorités. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais depuis tout ce temps, pourquoi on n'a pas fait de cela la priorité des priorités? Parce que on a toujours concentré beaucoup de moyens pour nos forces armées. Donc on veut nous dire que tous ces moyens budgétaires qu'on mettait à la disposition de nos forces armées allaient ailleurs. Je vais vous donner un exemple. La population de Nord-Kivu, notamment celle de la ville de Goma, avait fait une marche pour demander le départ de M. Amissi Tangofort, général de son État. Le chef de l'État, le pouvoir a fait sourde oreille, n'a pas écouté cette population qui avait voté pour lui pourtant. Et il a fallu attendre le rapport des Nations Unies pour pouvoir mettre ce monsieur en congé. Est-il normal? Vous voulez me dire exactement que tout ce que font nos généraux et que le chef hiérarchique, d'après l'article 83 de la Constitution, qui consentit au chef de l'État, commandant suprême, n'était-il pas au courant? Donc, nous nous posons la question de savoir, justement, que fait notre... Est-ce que la chaîne de commandement est respectée? C'est là aussi la grande question. Et voilà.
Monsieur Lusanga, est-ce que vous nous suivez? Voilà, il y a une question qui nous vient de Goma en Nord-Kivu, c'est Bissi Bitassi moi Bruno qui la pose. L'armée a toujours été citée dans les discours du président de la République comme une priorité pour le gouvernement congolais. N'est-ce pas là un aveu de l'échec pour sa formation et sa restructuration? C'est aussi un discours de repentance. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président de la République serait-il en train de faire aveu d'échec?
Radio Capi, je voudrais vous dire que la République démocratique du Congo, les institutions de la République, nous avons jusque-là été de bonne foi parce que nous sommes un pays membre des Nations Unies. Nous avons privilégié la voie diplomatique. Nous avons privilégié la voie politique pour que nous vivions en paix avec tous nos voisins. Ça, c'est ça également qu'il faut dire. Et que aujourd'hui nous nous rendons compte que nous n'avons pas été suivis, nous n'avons pas été entendus, et que le chef de l'État aujourd'hui dise il reste aussi une voix parmi les autres voies diplomatiques et politiques. Nous poursuivons. Il y a aussi la voie militaire. Nous avons été de bonne foi. Et que si aujourd'hui le chef de l'État arrive à constater que malgré notre bonne foi, nous n'avons pas suivi, et que aujourd'hui il puisse dire il nous faut une armée moderne, il faut une armée républicaine, une armée performante, une armée qui doit faire face à toutes ces agressions, mais il a parfaitement raison. Ce n'est pas tard de le dire. Je suis estomaqué quand j'entends l'honorable José Makila, élu du peuple, parler du budget. Est-ce que nous avons le budget? Mais honorable Makila oublie que c'est lui l'autorité budgétaire. C'est lui qui affecte le budget à tout ce qui concerne notre pays. Est-ce que honorable Makila, est-ce qu'à militer pour que cette armée que nous voulons républicaine ait le budget qu'il faut. Et je voudrais maintenant revenir, pas plus tard que samedi dernier. Le chef de l'État a dit, dans le budget que nous avons, nous allons donner une grande importance à l'armée pour sa réforme. Cette réforme-là, c'est quoi? C'est le recrutement de jeunes dans notre armée. C'est équiper notre armée convenablement avec des armes qu'il faut, avec des munitions qu'il faut, et il faut motiver cette armée. Tout a été dit par le chef de l'État en ce qui concerne cette armée-là. Nous ne pouvons pas dire que nous allons réformer l'armée sans moyens. Nous avons un budget que José Makila a voté. Eh bien, nous allons voir dans ce budget-là, et le chef de l'État a donné une indication.
Monsieur Lusanga.
Et que ce budget-là, nous allons prendre une part importante pour la défense de la nation.
Alors,
pour la défense de la mère patrie. Il n'y a pas d'autre priorité. La priorité d'abord que nous puissions aujourd'hui assurer l'intégrité territoriale de notre pays.
Monsieur Lusanga, puisque vous avez toujours la parole, permettez que nous puissions aborder l'aspect sur la cohésion nationale. J'espère que vous nous suivez. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de Kabila a aussi appelé à l'unité, à la cohésion nationale et a demandé aux Congolais de s'approprier l'enjeu de la défense nationale. On écoute une fois de plus le président de la République dans cet extrait sélectionné sur la télévision nationale.
Il est en effet important, au sorti de cette guerre, par les décisions que nous prendrons et les réformes que nous poursuivrons, par l'unité de volonté et d'action dont notre peuple fera la démonstration, que notre message aux ennemis de notre pays soit clair et sans équivoque. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. Cette cohésion, honorables députés et sénateurs, ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques et sociales du pays. Une initiative sera prise incessamment à cet effet et les modalités de sa réalisation en seront précisées le moment venu. Face à une situation historique qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous. Acteurs politiques, sociétés civiles, forces de défense et de sécurité, et toutes les forces vives de la nation. La défense de notre cher et beau pays est l'affaire de tous, de même que la préservation de la paix nous concerne tous.
Maître Marc Avota, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Le président de la République appelle à l'unité et à la cohésion nationale. Mais tout à l'heure, dans votre précédente intervention, vous disiez déjà que cet appel était tardif. Pourquoi ?
Naturellement, elle était tardive. Il est tardif parce que vous savez que la situation que nous traversons, c'est une situation catastrophique. La patrie est sérieusement en danger, elle est sérieusement menacée. Il y a plus d'un mois, vous vous rappelez, Goma a été sabotée par un État voisin que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redouter des incursions rwandaises qui se poursuivent à territoire de Nyiragongo. Et vous l'avez d'ailleurs indiqué dans l'édition de ce soir que des populations fuient, quittent la ville de Goma, des îles vont vers Bukavu, des autres des pays voisins et d'autres poursuivent vers Kinshasa. Bref, la situation est catastrophique. Mais nous pensons que comme le chef de l'État les reconnaît bien qu'à retard, nous nous disons, essayons d'oublier ce qui nous a divisé avant, renforçons l'unité, la cohésion nationale pour sauver cette patrie en danger, pour garder notre nation forte et indépendante, parce qu'en ce moment, c'est effectivement cette cohésion qui ne doit que sauver le pays. S'il faut considérer que la RDC est une, il ne faudrait pas laisser cet État, cette nation perdre un seul groupement, un seul territoire, sinon elle ne sera plus cette RDC. Et donc, c'est pourquoi nous avons avoué effectivement que le chef de l'État intervient à retard. Il a été le dernier à le constater malheureusement, mais nous pensons que nous devons oublier ce qui nous a séparés avant pour que cette nation soit réellement sauvegardée.
Alors, Maître Kavota, le président de la République parle d'une mobilisation qui ne devrait souffrir d'aucune conditionnalité, mais il y a certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui pensent qu'il y aurait des préalables à cette cohésion. Est-ce votre point de vue?
Non, nous pensons qu'au regard du danger que court la nation, au regard de ce que nous traversons, les pires déjà, on ne doit plus se faire de préalables. Il est clair que les options politiques et diplomatiques ont montré leurs limites. Et donc, à ce moment précis, il est temps qu'on s'investisse vers la défense de la patrie. Et là, pour y arriver, on doit réellement en être unis plus qu'avant. On doit oublier ce qui nous a séparés. Nous devons, en tout cas, estimer que l'ennemi, c'est un ennemi commun, donc l'agresseur, et donc on n'a pas intérêt à faire des obstacles parce que le danger imminent, il est très grand.
Alors, la semaine passée, le président de la République a reçu certains acteurs politiques de l'opposition. L'honorable José Makila nous en dira quelque chose tout à l'heure. N'est-ce pas déjà un bon départ dans ce sens, Maître Kavota?
Parfait. Nous pensons que c'est un bon départ. Bien sûr, il pourrait le faire avant, mais l'État a permis qu'il puisse le comprendre. Et nous pensons que si le chef de l'État tend la main à l'opposition, même maintenant, il faudrait que l'opposition emboîte les pas parce que dans ces moments précis et dans ces contextes précis, il n'y a que cette cohésion qui puisse sauver la nation.
Merci. Honorable José Makila, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Alliance des travaillistes pour le développement ATD. Je disais tout à l'heure que la semaine passée, le président de la République a reçu certains acteurs politiques de l'opposition. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Ben, vous savez, on s'est dit tout. La vérité, rien que la vérité.
C'est-à-dire?
On a dit au chef de l'État ce qui ne marchait pas dans le pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de la cohésion. On lui a dit de nous donner le contenu de ce concept de cohésion. On lui a parlé de toutes les injustices qu'une frange de la population est en train de subir. On lui a tout dit. Mais pour revenir à la question dont vous avez posé tout à l'heure, collègue, nous prenons le volet politique. Nous avons dit au chef de l'État que la concertation politique à tous les niveaux s'avère nécessaire.
Donc c'est un préalable.
Un préalable. Pas un préalable, mais s'avère nécessaire. Et nous lui avons dit que nous devons impérativement préserver les acquis de la construction de la démocratie depuis 2003. Quels sont ces acquis? La liberté d'expression et des droits de l'homme. Le respect des principes fondamentaux qui font d'un pays la res publica. L'accession au pouvoir par la voie des urnes et la personnalisation du pouvoir. Nous lui avons dit ça. En d'autres termes, on lui a dit aussi que la cohésion nationale ne se décrétait pas. C'est quelque chose de normal, automatique, qui venait automatiquement. Mais vu les frustrations, la régionalisation du pouvoir national, on nous a donné quelques cas d'exemple. Le ministre de la Défense est de la province, la même que le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de Mines, le ministre de Sport, le gouverneur de la Banque Centrale, le procureur général de la République, le président actuel de la CENI, le commandant de la garde républicaine.
Et en bref, ça constitue des frustrations.
L'AG de l'ANR, tout ça, si vous voulez, la liste, elle est longue. Tout ça vient de la même province que le chef de l'État. Si on doit ajouter, c'est la province de sa maman qui est de Maniema. Donc, le pouvoir n'est concentré qu'à ce niveau-là. Ça, c'est aussi une source de frustration. Nous autres, un moment, nous autres, nous sommes contentés d'être des prisonniers. Si tu es prisonnier, résidence surveillée. Nous parlons ici de Mokia. Nous parlons de Coutinho.
Et donc, ce sont des préalables, en d'autres termes.
Prisonnier. Donc, nous disons, aux autres, ils donnent le pouvoir, aux uns, non, c'est la prison, et tout ça ne peuvent pas concourir à la cohésion nationale.
Voilà.
Il faut qu'ils donnent un contenu
Merci.
Ah, c'est le concept.
Sébastien Louzang, Chamandez-vous, vous êtes acteur politique et porte-parole de la majorité présidentielle. Je signale en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. En ce qui concerne la cohésion nationale, l'honorable Makila vient d'évoquer plusieurs frustrations au niveau de la classe politique qui pourraient mettre en mal cette cohésion nationale, cette unité à laquelle appelle le chef de l'État, et aussi il y aurait un problème du contenu que le chef de l'État donnerait au concept cohésion nationale. Quelle est votre réaction?
Ma réaction, d'abord, je voudrais saluer l'esprit patriotique, l'esprit nationaliste de l'opposition qui a répondu à l'appel du chef de l'État et auprès de qui ils ont donné leur cahier de charge. C'est un président de la République attentif qui est à l'écoute de son peuple. Je pense que l'honorable Makila voudrait qu'on résolve tous les problèmes. Ce soir ou demain, le chef de l'État a entendu le cahier des charges de l'opposition. Il a des choses à revoir. Et là également, le chef de l'État a déjà donné une réponse. Il y a une initiative. L'honorable Makila va trop vite en besogne. Il y a une initiative que le chef de l'État a annoncée au peuple congolais. Cette initiative-là, nous sommes en train de nous employer pour donner cette initiative corps et forme pour que ça ne soit pas un vœu pieux que l'honorable Makila s'apaise, et je crois que le chef de l'État a entendu ce qu'il a dit. Mais je voudrais déjà vite dire, je connais mon jeune frère José Makila qui est l'élu de Guémena. Je crois que s'il attend du chef de l'État que nous allions encore nous asseoir Johnson City pour le partage équitable et équilibré du pouvoir, je crois que ce n'est pas ça. Sinon, alors nous devons nous poser la question, à quoi auront servi les élections?
Alors,
dans le monde entier, après les élections, il y a une majorité qui se dégage,
Sébastien
Louzanga. Il y a une minorité qui va dans l'opposition, et cette opposition-là doit être une opposition responsable.
Alors, conclusion, je vous en prie.
Et nous serons toujours à l'écoute. Quant à ce qui concerne le dialogue, je crois que le chef
voilà.
de l'État, dès le jour...
Malheureusement, il nous reste moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Monsieur Louzanga, il faut conclure. Je vous redonne la parole tout à l'heure si on a encore quelques secondes. Maître Kavota, conclusion, qu'est-ce que les Congolais qui vous suivent en ce moment peuvent retenir du discours du chef de l'État? Y a-t-il lieu d'espérer, d'après vous?
Dans ce moment le plus difficile, nous devrions éviter les habitudes séparatistes. C'est pourquoi nous pensons que dans l'échec de la majorité, il est temps qu'on puisse bannir l'arrogance, qu'on fasse preuve d'humilité, de réconciliation nationale, d'écoute et de simplicité dans la grandeur. Et du côté de l'opposition, qu'on fasse preuve de tolérance, de cohésion et d'unité nationale. Et nous, à la société civile, nous ferons montre d'amour patriotique, de vigilance, de mobilisation nationale, à vite débarrer la route à l'agresseur et faire échec au plan de balkanisation mise en œuvre.
Mais vous avez suivi tout à l'heure l'honorable Makila avec les différentes propositions de concertation. Faut-il espérer finalement qu'il y aura un consensus?
Avec l'esprit d'écoute, si cela est exploité dans les chefs de la majorité, avec l'esprit de réconciliation, ces préalables ne peuvent pas constituer d'obstacle.
Merci. Honorable Makila, juste un mot pour conclure.
Non, je remercie mon grand frère Louzanga Chamandez-vous, l'esprit avec lequel il est venu pour ce débat. Mais je voudrais simplement dire à mes frères de Nord et Sud Kivu, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, nous ne vous lâcherons jamais. Congo Ikoye tout.
Merci. Monsieur Sébastien Louzanga, si vous me suivez, juste un mot pour conclure.
Il faut répondre armé.
Voilà, décidément, monsieur Louzanga ne nous suit pas. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Merci à nos invités, l'honorable José Makila, Sébastien Louzanga Chamandez-vous et maître Omar Kavota. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.